De m'avoir invité. Sabine, qui a servi d'intermédiaire extrêmement efficace et qui m'a régulièrement renvoyé les rapports de café, comme ça je sais à peu près dans quelle ambiance et dans quel but vous vous réunissez ici, et je m'associe entièrement à votre démarche, puisque vous allez voir, depuis de nombreuses années, je me suis intéressé aux activités des dialogues interreligieux, que je trouvais très important. Mais aujourd'hui, je trouve que non seulement c'est important, je trouve que c'est devenu vital, que les dialogues interreligieux n'est plus seulement un moyen d'apaiser les tensions inacceptables qui peuvent exister entre les différentes traditions religieuses, puisque toutes ces religions, sans aucune exception, viennent établir la justice, la paix, l'amour. Et malheureusement, la nature humaine peut parfois prendre le dessus de son côté civilisé. Et donc, le rôle de la religion, c'est d'apaiser tout ça. Mais pas seulement. Dans la situation actuelle du monde, je ne veux pas revenir dessus longuement, il suffit de regarder vos journaux, la télé, on se rend compte qu'il est devenu urgent que nous puissions apporter une éducation morale à tout le monde, les enfants en premier, les adolescents et les adultes. Et ce sera un peu le but de mon intervention ce soir. Je suis particulièrement ému et sensible de cette invitation parce que j'ai l'impression de revenir un peu au bercail dans cette région. Je viens de Brest, comme ça a été dit, avec beaucoup d'enthousiasme pour retrouver des anciens amis et de retrouver aussi des nouveaux. Mais je vais vous dire quelques mots de mon parcours. Je suis né en Iran, ce qui explique mon nom et peut-être ma physionomie en quelque sorte. Mes parents se sont établis en Afrique en 1952. Et donc j'ai grandi dans l'ambiance de la colonie anglaise, de la Tanzanie, Tanganyika, qui est devenue ensuite la Tanzanie. Et j'ai vécu ces échanges interculturels très intenses. J'ai pu, depuis mon enfance, fréquenter des gens de très différentes origines et différentes confessions, différentes traditions et cultures. Ensuite, pour différentes raisons, j'ai atterri en France en 1964. Je suis venu pour apprendre le français avant d'aller faire mes études de médecine en Écosse. Et puis voilà, on fait pas tout ce qu'on veut faire dans la vie, et parfois le destin nous trace autre chose. À l'époque, je trouvais que c'était très dur, mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que c'est mieux que ce que j'aurais pu décider pour moi-même. Et en 64, je suis venu en France, j'ai appris le français, en même temps, j'ai commencé mes études de médecine et je suis resté. J'ai fait mes études à Lyon, donc c'est déjà dans la région. Ensuite, je suis parti 2 ans et demi en Corse, faire mon internat, et de la Corse, je suis venu m'installer à Annecy comme interne en chirurgie, ensuite assistant en chirurgie, et finalement, j'ai complété mes études de chirurgie à Lyon, et je me suis installé comme chirurgien à l'hôpital d'Annecy pendant peut-être 25 ans, je ne sais plus, vous calculerez, jusqu'en 2002. En 2002, mon épouse a eu une proposition de travail à Tahiti. Et donc, on est parti 5 ans en Polynésie française. Et encore une expérience extrêmement enrichissante, ce contact interculturel, le contact entre la culture française et la culture polynésienne, qui est déjà une culture très métissée, parce qu'il y a des Chinois, il y a des Polynésiens d'origine, le demi, comme on dit. Voilà. Et beaucoup de réflexions sur les interactions des civilisations. Puisque dans ce monde, dès mon enfance, je me suis rendu compte que les civilisations ne sont plus faites pour rester chacun dans son coin avec les frontières fermées. Nous avons besoin d'échanger. La richesse vient justement de ce métissage de cultures et de civilisations. Donc, j'ai fini ma carrière de chirurgien en Bretagne. Et coupé un peu de cette région que j'ai toujours aimée, où j'ai laissé beaucoup d'amis avec lesquels je suis en contact grâce au Facebook parfois. Et donc en échange toujours, j'ai gardé l'amitié et l'amour avec les amis que j'ai laissés ici. Et j'étais extrêmement touché qu'on m'invite pour venir vous rencontrer. Et comme vous allez voir, ce sujet est un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis très longtemps. Ce parcours, on peut revenir dessus pendant les questions, je ne veux pas étendre plus sur ça. Ce parcours m'a ouvert les yeux sur la nature inéluctable des échanges et des métissages culturels. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas retourner en arrière à ce qu'était l'Iran, l'Afrique, la France ou la Polynésie il y a 100 ans, 200 ans. Ce n'est pas possible. On ne peut pas revenir sur l'histoire. Donc on doit avancer vers quelque chose de nouvel. Et cette quelque chose de nouvel doit être une civilisation. Et cette civilisation fait que les hommes sont capables de travailler ensemble, de collaborer, coopérer, au lieu d'être en compétition et en tension. Donc ça, c'est la nature autour de lui, vit de la coopération et de la collaboration. La nature ne vit pas de la compétition. Et que dans nos sociétés, nous devons construire quelque chose de cette même nature. Donc, tout au long de mes études, j'étais toujours interpellé par ces échanges interculturels, le côtoiement de gens de cultures différentes, de religions différentes, de pratiques, des traditions différentes. Et en faisant mes études de médecine à Lyon, je me suis rapidement intéressé à l'éthique médicale. Et je me suis rendu compte que beaucoup de difficultés des décisions venaient de ce côtoiement de gens de cultures différentes qui avaient des références, des valeurs un peu différentes. Et parfois, pour le médecin, c'était très difficile de s'adapter aux besoins de chacun. Donc, je ne sais pas si quelqu'un ici connaît le docteur Nicole Léry des Lyons, qui a été pour moi vraiment une lumière en matière d'éthique. Travaillé à Lyon, il était professeur de médecine légale et d'éthique. Et donc, j'ai travaillé avec le droit éthique de la santé. J'ai un certain nombre de travaux très modestes, bien sûr, des papiers, comme on dit, hein, des documents, des études sur différents sujets. S'il y a des gens qui s'intéressent, on peut par la suite, je peux vous donner des références, mais ce n'est pas le but de moi. Bon, donc, je me suis rendu compte que les décisions éthiques devenaient très compliquées et très difficiles dans le milieu multiculturel. Parce qu'on pouvait avoir un malade qui est de telle tradition, telle culture, telle confession, ou athée. Voilà, on a des laïcs qui ont des idées et une moralité parfaitement honorables, voire même parfois mieux que ceux qui se prétendent être de telle culture religieuse. Et on a travaillé donc sur la décision éthique, comment on prend une décision lorsqu'on a un malade de telle tradition qui ne veut pas d'amputation de jambes ou qui n'accepte pas tel médicament, etc. Donc il y a une consultation d'éthique qui avait été installée à Lyon où les malades qui avaient des difficultés avec le système de santé venaient demander conseil, demander de l'aide. Et en même temps, je me suis aperçu que les cultures sont inspirées par des pensées religieuses. C'est-à-dire que la façon que nous vivons dans ce monde dépend en grande partie de l'idée que nous nous faisons de notre vie dans ce monde. Quelle est la finalité? Pourquoi je suis dans ce monde? Les animaux ne le savent pas, mais nous, on sait qu'on va vivre 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans. Mais à quoi ça sert cette existence? Est-ce que c'est uniquement subvenir à nos besoins physiques? Ou est-ce que on a une mission dans ce monde? Et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'il y a un après? Et on se rend compte que notre motivation pour vivre, pourquoi on vit dans ce monde, dépend de cette pensée implicite. On n'y pense pas tout le temps. Mais implicitement, ces idées vont déterminer les décisions que nous prenons. quelles études on fait, comment on se comporte en famille, comment on se comporte en société, comment on fait notre métier, comment on gère nos finances. Tout ça est déterminé par notre conception de la vie humaine dans ce monde. Donc, je me suis rendu compte que non seulement en médecine, mais aussi en politique, en économie, en sociologie, etc., sans le vouloir, et parfois avec regret, nous puisons dans un patrimoine culturel qui est très largement inspiré par la religion. Sans jamais ouvrir la Bible, sans jamais aller à l'église, sans jamais aller aux mosquées, nous sommes dans des sociétés qui sont inspirées, les 10 commandements ont inspiré nos textes de loi. Et donc, de la même façon qu'on conduit la voiture sans se rendre compte que nous sommes en train de respecter implicitement le code de la route, c'est devenu un automatisme, de la même façon, il y a un code moral ou code d'éthique qui détermine la façon dont on se comporte. Et si on dévie un peu trop, il y a des accidents, il y a des sanctions, il y a des choses qui arrivent. Donc, je me suis de plus en plus intéressé sur la motivation religieuse de toutes nos activités. Et d'ailleurs, ma thèse de médecine en 1976 a été consacrée à ça. J'avais pas mal de lectures, donc j'ai eu la chance d'avoir le professeur Guyota de Lyon qui s'est intéressé à cette pensée et il m'a autorisé de faire une thèse sur les interactions entre la religion, la médecine et la santé. Donc, je présentais cette thèse en 1976. Oui, ça ne me rajeunit pas, mais je n'ai rien à vous cacher. Au même moment, j'ai commencé à m'intéresser aux activités interreligieuses, dialogue interreligieux. Parce que je me suis rendu compte que si on veut résoudre tous ces petites frictions, les tiraillements qu'on peut avoir dans les hôpitaux ou ailleurs, il faut quand même étudier les tenants de la religion. Je n'étais pas contre la laïcité, au contraire, je suis pour la laïcité, mais comme a dit un de nos anciens présidents, la laïcité peut être positive. Laïcité veut dire que l'État est garant de la liberté religieuse et de la pluralité. La laïcité ne veut pas dire qu'on interdit la religion. Parfois, on comprend ça un peu différemment. Et donc, je me suis intéressé, notamment avec l'avènement de l'Internet, avec différents courants de ce qu'on appelait à l'époque l'éthique globale, l'éthique mondiale. Et en faisant suite à Vatican II, Hans Kuhn, je ne sais pas si vous le connaissez, ensuite Leonard Swidler, ils ont mis en place les préceptes et les principes du dialogue interreligieux. Il y a Swidler qui a proposé les 10 commandements du dialogue interreligieux. Quels sont les principes? Comment on fait un dialogue? Comment on se parle? Et on se rend compte que le parlement de religion qui a commencé, sauf erreur de ma part, je n'ai pas de notes là-dessus, vous pouvez me corriger, je crois qu'en 1898 ou quelque chose comme ça, à Chicago, les mariés étaient déjà présents à l'époque. Pardon, il y avait... Non, tu crois qu'il y avait quelqu'un qui intervenait. Arrêtez-moi hein, s'il y a des choses que vous voulez préciser. Hein. Cette activité interreligieuse, ce dialogue, était extrêmement important parce que jusqu'à là, les religions ne se parlaient pas. Il n'y avait pas de dialogue. Donc, c'était un premier pas. C'est déjà se parler. Qu'est-ce que vous pensez de ça, etc. Par la suite, dans la région, c'est le centre d'Arzillier, vous connaissez peut-être, le centre interreligieux à Lausanne, Arzillier, où les Bahaïs ont une activité constante. Ils sont sur le conseil d'administration d'Arzillier. M'a invité assez souvent. J'ai écrit un certain nombre de documents sur le dialogue interreligieux. Et ma pensée dans ce domaine interreligieux a petit à petit évolué. J'ai dit, c'est très bien, il y a les dialogues. Les gens de différentes religions se rencontrent. Parfois, ils prient ensemble même. Ils se rencontrent à Assise et ailleurs. Et tout ça, cette ouverture est un premier pas. C'est un pas très important. Mais compte tenu de la situation grave du monde, où non seulement les religions sont parfois à l'origine des conflits, ce qui est totalement contraire, c'est une perversion de messages religieux du départ. Mais déjà, ils ne font pas leur travail de pacification et de création d'unité. Le mot religion, religare, veut dire qu'on va relier les gens ensemble. Il faut que la religion soit une source d'union. Et comme disent les écrivains, si le médicament qui est censé de nous guérir devient une source de maladie, il vaut mieux l'abandonner. Si la religion devient une source de conflit, il vaut mieux ne pas en avoir. Or, ce n'est pas la religion qui est source de conflit, c'est notre compréhension, notre interprétation et notre façon de pratiquer la religion qui peut devenir une source de conflits, de tensions, voire de guerres, malheureusement, de violences. Donc, ma démarche m'a progressivement amené à l'idée qu'il ne suffisait pas de parler ensemble. Pourtant, c'était vital et nécessaire. Il ne suffisait pas que les religions se tolèrent. Ce n'est pas suffisant. C'est déjà beaucoup. C'est mieux que l'intolérance. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les religions puissent venir sur le terrain et proposer des solutions pour le problème du monde. Quelque part, il est important que nous ne pratiquions pas une religion simplement pour le confort intellectuel, parce que ça me fait du bien, je fais du yoga, je fais de aérobie, je fais du sport parce que ça me fait du bien, c'est nécessaire à mon équilibre, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas le but de la religion. Le but de la religion, c'est d'aller plus loin, c'est de créer une nouvelle civilisation. Et j'ai découvert dans ces temps-là l'écrivain anglais Arnold Toynbee, qui a écrit « L'histoire des civilisations » en 12 volumes. C'est un travail immense où il démontre que toutes les civilisations, sans aucune exception, se construisent sur une pensée morale, spiritualiste. C'est à partir de cette pensée spiritualiste que la civilisation va naître. Et un autre auteur qui est allé dans ce sens-là, j'oublie son nom sur le coup, il prend l'exemple de la chute de l'Empire romain. La civilisation romaine, qui est une immensité, s'est effondrée et le christianisme a été la semence qui a permis de construire une nouvelle civilisation. Donc cette idée que la pensée spiritualiste n'est pas seulement pour nous donner une bonne conscience, pour qu'on ait la rédemption, la vie éternelle, le rachat de nos péchés, ce n'est pas ça seulement. Bien sûr qu'il y a de ça aussi. Mais la religion n'a pas seulement une fonction individuelle, mais a surtout un apport collectif. Religare, ça veut dire que ça me relie avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire que ça me relie seulement à moi-même. Donc, ça, c'est un aspect souvent méconnu, ou en tout cas ignoré ou négligé de la religion. Donc, avec mes amis qui ne sont pas religieux, qui sont athées, agnostiques, autres, c'est un élément extrêmement important à dire, que la religion n'est pas seulement parce que le pari de Pascal, il vaut mieux croire que pas croire, bien sûr, mais au-delà, il faut que la religion devienne une source d'union et non de conflit. Et ça, dans les démarches de dialogue interreligieux, c'est une idée qui émerge depuis maintenant une vingtaine d'années, une trentaine d'années, et on cherche des solutions pour faire un travail sur le terrain. Il y a un élément nouveau qui est survenu dans les activités des Bahaïs à partir des années 1995. C'est une démarche qui nous prend conscience de la responsabilité de chacun de nous pour la mise en place d'une nouvelle civilisation. Quelque part, les problèmes qui affligent le monde d'aujourd'hui sont d'une telle gravité, d'une telle intensité qu'ils ne semblent pas raisonnables d'espérer que nous puissions réparer la structure, je vous reparle des individus, hein. La structure sociale, la façon que nous interagissons entre nous, doit changer. Et la foi Marie apporte les idées à ce sujet. Je ne sais pas si tout le monde ici a déjà une petite idée de ce qu'enseigne la foi Marie, de quelle origine c'est. Vous souhaitez que je fasse, mais bref, ce n'est pas le but de la soirée, je ne veux pas parler des généralités, mais très brièvement, au milieu du siècle dernier, un mouvement religieux est né en Iran. Pardon ? Tout à fait raison, oui. Oui, oui, je suis encore dans les 1900, oui, dans les 1800. Donc, merci. Donc, 1844, un mouvement religieux a commencé qui répondait à une attente messianique mondiale. On cherchait, beaucoup de théologiens avaient calculé qu'il devait y avoir quelque chose de nouveau, il devait y avoir une nouvelle révélation divine à cette époque-là. Donc, ça commençait avec un persan qui était d'origine noble et qui s'est pris le nom du Bab. Ça veut dire la porte, et il dit « Je suis venu pour préparer le chemin pour celui que toutes les religions attendent. » Il a été très mal accueilli par le clergé musulman d'Iran, qui était pas du tout mieux que ce qu'on voit aujourd'hui, et il a été arrêté, et en 1850, il a été exécuté avec un peloton de 750 fusils. Imaginez à quel point on voulait ne pas le rater. Et avec lui, quelques 20 000 de ses adeptes ont été torturés dans des conditions très terribles. Il y a des chercheurs et des historiens occidentaux qui ont étudié ça, notamment le comte Gobineau, dans son livre « Les religions de l'Asie mineure, philosophie et religion d'Asie mineure », a longuement parlé de ce mouvement qu'on appelle le mouvement Babi, puisque l'auteur était le Bab. Et après l'exécution du Bab en 1850, ses adeptes ont été désemparés. Parmi ses disciples, il y avait un homme noble de famille du gouvernement d'Iran qui a été arrêté, mis en cachot. Et puis finalement, Jabrej a été expulsé d'Iran en exil à Bagdad. Et à Bagdad, il a annoncé être celui que le Bab avait prédit. Et il a annoncé les principes qui doivent être les bases d'une nouvelle civilisation. Il a attiré à lui-même la furie de, non seulement du clergé, mais des hommes d'État. Son charisme et l'amour qu'il provoquait dans la population faisaient très peur. Parce qu'il apportait, il se présentait comme une sorte de révolutionnaire avec des idées qui mettaient en cause la stabilité du système gouvernemental et du système du clergé. Enfin, il a été encore éloigné d'Iran parce que son influence ne cessait que de croître à Constantinople, à Andrinople, où il est resté 5 ans. À nouveau, son influence grandissait et finalement, ils l'ont renfermé dans un cachot à Saint-Jean d'Acre en 1868. Et pendant tout ce temps d'exil et d'emprisonnement, il n'a cessé d'écrire des lettres à tous les dirigeants du monde de son époque et des différentes traités sur des sujets théologiques, sur les sujets sociaux, etc. Il y a une vaste collection d'écrits extrêmement importante qui sont à votre disposition. Je suis sûr que les amis Bahaï ici se feront un plaisir de vous passer des livres pour que vous puissiez les étudier. Et Bahá'u'lláh, qui était son nom, qui donne le nom de Bahaï. Bahá'u'lláh, ça veut dire gloire de Dieu. Et Bahaï, ça veut dire ceux qui appartiennent à la gloire, qui appartiennent à Bahá'u'lláh. Et décédé en 1892, il a été enterré près de Saint-Jean d'Acre, où il a fini sa vie. Et ce lieu est devenu le lieu de pèlerinage pour le Bahaï du monde entier. Et donc, pendant tous ces, ses exils et voyages, il dit « J'ai accepté les humiliations de la prison pour que l'humanité puisse renaître, pour que la paix puisse se faire. » Et dans ses lettres à tous les dirigeants de son époque, il dit « Voilà le chemin de la paix. Il faut apaiser vos différences. Il faut investir vos richesses et vos fortunes pour le bien-être de l'humanité, etc. » Et il donne les bases et les principes d'une civilisation mondiale. Et parmi les principes, c'est qu'il n'y a qu'un Dieu. Toutes les religions monothéistes disent qu'il n'y a qu'un Dieu, donc c'est le même Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Le Dieu des musulmans s'appelle Allah parce qu'en arabe, le chrétien prie Allah. Parce que le mot arabe pour Dieu, c'est Allah, et ce mot est dirigé des Elohim, qui vient d'hébreu. Mahomet a été une source de conversion des Arabes qui étaient polythéistes, qui avaient dans le Kaaba de la Mecque, ils avaient leurs idoles. Il a été une source d'introduction du judéo-christianisme. Il a créé l'union entre le judéo-christianisme et le peuplade de péninsule arabique qui était totalement sauvage avant l'avènement de Mahomet. Donc, c'est déjà le début d'un dialogue interreligieux qui s'est fait en disant qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'étape suivante de dire que s'il n'y a qu'un seul Dieu, sa création est unique. Et les gens de différentes parties du monde ne font partie que d'une même humanité, d'une seule race humaine. Donc la race humaine est unique. Et donc cette idée qu'il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'une seule religion et il n'y a qu'une seule humanité, c'est les bases de la paix. On ne peut pas faire la paix sans l'unité. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc, mais ça ne sonne pas la fin non plus pour moi encore. Hein. J'ai encore à faire. Et donc, on parle du chemin de la paix. Le chemin de la paix passe par l'unité. L'unité ne veut pas dire uniformité. L'unité ne veut pas dire que tout le monde doit penser la même chose et habiller pareil et faire la même chose. C'est l'unité dans la diversité. Ce n'est pas dans l'homogénéisation de l'humanité, mais c'est que nous avons tous des capacités, des talents, des compétences différentes et que nous devons tous mettre ce que nous avons, ce que Dieu nous a donné, le mettre à la disposition de l'humanité. Donc, l'unité de genre humain est un préalable indispensable à la paix. On ne peut pas faire la paix entre des gens qui ne collaborent pas, qui ne coopèrent pas, qui ne se sentent pas comme étant sur le même bateau. Donc, lorsque nous voyons la situation du monde aujourd'hui, il est évident que si on ne se donne pas la main, on n'arrivera pas à s'en sortir. Si le monde était peuplé de Martin Luther King, de Gandhi, de Mère Teresa, de Sœur Emmanuel, si toutes ces personnes merveilleuses ne travaillaient pas en coopération, en collaboration, on n'arriverait pas à transformer le monde. Ça, c'est un élément très important. Il faut que les individus s'améliorent. C'est indispensable. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a une interaction entre les individus et la société. L'environnement impacte le comportement des individus de la même façon que le comportement des individus impacte l'environnement. Ça, c'est un élément extrêmement important. C'est-à-dire que la construction de nouvelles civilisations doit se faire de façon organique. Ça doit commencer à la base et petit à petit, on doit construire. On va parachuter une nouvelle civilisation avec la mondialisation, avec les bombes et avec la force. Mais on peut le créer dans chacun, dans nos quartiers et dans nos villages, progressivement construire les bases d'une nouvelle civilisation. Donc cet élément de l'unité dans la diversité, c'est un principe élémentaire de la foi. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Donc si on croit appartenir à différentes religions, en fait, on appartient à différentes traditions, différentes formes de pratiques, différentes structures de vie sociale, Mais le fondement de la religion n'est qu'une. On est en train de faire dialogue entre deux cousins germains. Le fondement de toutes les religions est identique. Ce qui change, ce sont les lois sociales. Donc les lois sociales de bouddhisme, d'hindouisme, d'islam, du christianisme, du zoroastrianisme ont été adaptées aux populations de cette époque-là. Et si on essaye d'appliquer aujourd'hui les lois sociales qui étaient faites pour il y a 1400 ans, comme certains auraient souhaité faire, ça ne peut être que des catastrophes. Ces principes ne sont pas les lois sociales. Mais là, ce sont des lois sociales. Donc la foi bahaï fait très clairement la différence entre ce qui est le message spirituel d'Abraham, de Moïse, de Jésus, de Mahomet, et les lois sociales qui ont été introduites pour un certain temps. La religion de Dieu, dit Baha'u'llah, est éternelle, éternelle dans le passé, éternelle dans l'avenir. Mais les lois sociales doivent évoluer. On ne peut pas pratiquer les lois spirituelles avec des principes qui sont désuètes, qui sont obsolètes. Les lois sociales doivent évoluer. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ils disent « Moi, je suis de telle tradition religieuse. Pour moi, la religion, c'est ça. La religion, c'est le Shabbat, c'est le dimanche, c'est faire le jeûne, le ramadan et tout ça. Ce sont des lois sociales nécessaires. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Mais ces lois sociales doivent évoluer en fonction des besoins de l'humanité. Donc cet autre principe, c'est que la révélation de Dieu à l'homme, cette source d'éducation qui nous est proposée d'époque en époque par des personnes qui manifestent la volonté divine, une théophanie, puisqu'on est café théo, utilisant le mot théophanie, l'apparition de Dieu parmi nous, ça s'est fait à travers des individus qui nous apportent des lois spirituelles éternelles et des lois sociales. Pour une certaine époque, les divorces changent, enfin, des jours, des semaines peuvent changer, mais le fondement spirituel est le même. Donc c'est aussi un élément extrêmement important qu'il ne faut pas se regarder comme étant un autre, nous et les autres, eux, nous. Non, il n'y a que nous. Il n'y a que nous à différents degrés d'évolution. Et c'est ça le force d'unité, et c'est autour de cette unité qu'on peut construire la paix de façon durable. Et la paix n'est pas simplement des traités de non-violence. La trêve. On dit, il y a la trêve, donc c'est la paix. Non, ça ne suffit pas. Il faut collaborer, coopérer et construire une société nouvelle. Un élément qui transparaît très clairement dans les enseignements de Baha'u'llah, c'est que l'être humain a besoin d'éducation. Et pas seulement l'éducation en mathématiques, géographie, physique et littérature, mais aussi en éducation morale. Et c'est là, je pense, que nous avons un travail important à faire. On est dans un système social qui, tributaire de la Révolution française, qui a apporté un progrès considérable, où les privilèges ne sont pas le fait de la naissance, mais des mérites de chacun, la méritocratie républicaine. C'est très bien, c'est un grand progrès. Mais pour cette méritocratie républicaine, l'éducation est devenue l'ascenseur social. L'éducation est considérée comme ce qui nous permet de faire mieux. Malheureusement, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, l'éducation est un moyen de dominer les autres. Or, l'éducation doit être un moyen de servir le bien commun. L'éducation ne doit pas être un moyen de mieux à servir autrui, mais à servir l'humanité. Donc, le mode d'éducation doit évoluer. Et on trouve des textes à ce sujet dans les écrits bahaï. Donc, l'éducation doit être une source de consolidation des liens de l'humanité et pas une source de créer des barrières. Et puis moi, j'ai des diplômes, moi, j'ai tel concours, toi, tu n'as pas, et toi, tu es domestique, et moi, je suis ici. Tout ça, je crois que ça doit disparaître. Le domestique qui fait bien son travail est bien plus avancé que le grand intellectuel, professeur, qui utilise sa connaissance pour mieux exploiter la société. Et personnellement, quand je vois une certaine évolution vers le populisme, je vois régulièrement des réactions anti-scientifiques, anti-rationnelles. Je le comprends. Je n'approuve pas du tout. Mais je comprends que c'est des gens qui ont été laissés pour compte dans le système éducatif, qui ont été dégoûtés de l'éducation. Une éducation qui, au lieu d'apprendre ce qu'il faut faire, est devenue une source simplement de sélection. Et toi, tu es bon, on te prend, on te donne des postes, et toi, nul dans la rue. Mais non, ce n'est pas ça l'éducation. L'éducation doit s'adapter aux besoins de chaque individu, faire en sorte que chaque individu puisse s'intégrer en tant que force vive dans la civilisation et pas être exclu et aigri. Et ensuite, bien sûr, ces gens-là, ils détestent la science. Ils détestent l'éducation. Et ils disent que, mais après tout, toi, tu sais des choses, puis je m'en fous, moi. Je n'ai pas besoin de ta connaissance. Donc, il y a cet élément qui est très important dans la notion d'éducation. L'autre élément que je voulais vous proposer, et je pense qu'il ne faut pas que j'en abuse non plus, c'est l'idée que l'éducation doit s'adresser à tout le monde en même temps. On a aujourd'hui des fossés entre les personnes de différents âges. Et il est important que les enfants, les adolescents et les adultes puissent interagir, puissent se voir ensemble, puissent discuter ensemble, puissent parler de ce qui peut améliorer la société, puissent ensemble examiner quels sont les problèmes de notre monde et comment nous pouvons les résoudre. Et cette interaction entre générations est essentielle. Ce n'est pas essentiel pour que les vieux ne se sentent pas mis à la poubelle, ce n'est pas ça. C'est que les jeunes doivent profiter de l'expérience des anciens. C'est un don. Aujourd'hui, un de mes amis disait, je passais beaucoup de temps à faire le CV de ma petite fille, etc. Je disais, mais qu'est-ce qu'à mon âge, à notre âge, on peut faire de mieux que de participer à l'éclosion d'une nouvelle génération ? C'est un élément très important. Malheureusement, dans le milieu universitaire, on trouve encore des patrons qui bloquent leurs élèves parce qu'ils ont peur d'avoir un concurrent. On est dans une société de compétition. Dès l'école maternelle, on enseigne la compétition. Tu écrases, sinon tu es écrasé. Et cette mentalité doit disparaître. Il faut que ce soit une mentalité d'entraide, coopération, collaboration. Donc, je voudrais vous amener en fin de cette présentation à envisager les possibilités pratiques pour collaborer ensemble, hein, pour pas que ça reste seulement le dialogue. Donc, depuis bientôt une vingtaine d'années, les Bahaïs sont en train de mettre en place partout dans le monde, dans les villages, dans les voisinages, des activités, on appelle ça l'Institut de formation. Donc, c'est par l'éducation. Les gens ne sont pas nés intelligents ou idiots. Ils naissent avec toutes ces capacités précieuses. Et c'est à l'éducation de faire éclore ces capacités et de faire en sorte que ces capacités ne soient pas mises de façon égoïste à la compétition, mais soient mises au profit du bien commun et de la société. Et donc, ces activités éducatives se concentrent sur les tranches d'âge. Il y a les enfants de 6 ans à 11 ans. Il y a des activités pour les enfants, des classes d'enfants. Et ensuite, il y a des activités pour les jeunes, on appelle ça les pré-jeunes, les pré-adolescents de 11 ans à 15 ans. Et ensuite, il y a des activités pour les jeunes et les adultes. Et ces activités éducatives sont en quelque sorte reliées ensemble avec les mêmes principes. Le principe de base, c'est que je m'éduque pour améliorer le monde, je ne m'éduque pas pour asservir et dominer les autres. C'est révolutionnaire, ça. Et on comprend que de tels concepts aient pu inquiéter les chefs religieux et les personnes d'État au temps de Barolla. C'est une révolution, c'est-à-dire que c'est une attaque directe aux privilèges de certaines personnes. Et même aujourd'hui, tout le monde n'accepte pas très facilement cette perte de privilèges. Mais quelque part, il faut quand même se faire à l'idée, soit il faut laisser de côté nos privilèges, collaborer, coopérer, soit disparaître ensemble. Comme disait Martin Luther King, soit il faut vivre comme des frères ou disparaître en tant qu'idiots. Il y a un choix à faire. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Quand vous mettez la télé, quand vous lisez le journal, vous vous rendez compte que la question n'est plus que je vais sauver mon âme. La question est qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité avant que je m'en aille. Lorsque un jour on va se trouver tous ensemble sur des nuages et je regardais le monde et je dis qu'est-ce que je fais. Et voilà le truc qui a marché. Ah là là, j'aurais pu faire ça, je ne l'ai pas fait. Quel dommage. Et donc c'est ça l'idée, c'est que l'enfer, c'est de regarder en arrière, de voir les choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas fait, d'être rempli de regrets. Et le paradis, c'est de voir ce qu'on a fait qui a fleuri, qui s'est épanoui et qui a été à la source de bien-être pour l'humanité. Quel bonheur plus grand que de regarder en arrière et de dire tiens, j'étais à l'origine de bien-être et de soulagement de l'humanité. Est-ce qu'il peut y avoir une joie, un plaisir plus grand que ça? On peut avoir de grandes maisons, on peut avoir un tas de choses de consommation, mais la joie qu'on emportera avec nous, ce sera ça. Donc, ce système éducatif existe partout, ça existe à Chambéry aussi, mais ce système éducatif a besoin de la participation de tous. Il est clair qu'il ne s'agit pas, ce système éducatif, l'Institut de formation Baha'i, n'est pas une sorte de catéchisme pour les Baha'i. C'est un lieu où les personnes, croyantes ou non, athées ou non, chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, peuvent se rencontrer depuis l'enfance et de voir un matin, voilà, c'est un juif, ah ben là, c'est un musulman. Eh ben, on peut travailler ensemble pour améliorer notre quartier et faire de la musique, faire de l'éducation. Les jeunes de 11 à 15 ans participent à organiser des classes pour les enfants. Les enfants, pour évoluer, ils ne vont pas regarder un vieux comme moi. Ils vont regarder les gamins qui ont 2-3 ans de plus. Et c'est cet enfant, c'est ce jeune qui peut inspirer les pré-jeunes à devenir un agent de transformation de la société en mieux, et que ce pré-jeune peut s'occuper des enfants. Donc, quelque part, chacun de nous a non seulement l'obligation de ne pas entrer en compétition, mais d'aider ceux qui sont autour de lui de faire éclore une nouvelle société. Cette expérience qui dure depuis une vingtaine d'années donne ses fruits dans beaucoup de parties du monde, dans les pays pauvres comme dans les pays riches, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en France. Donc il y a des activités qui s'organisent. Les Baha'is n'attendent pas mieux que d'autres personnes, d'autres traditions religieuses viennent participer avec eux pour le faire. Et pourquoi pas que les autres traditions religieuses viennent s'inspirer de ce qu'ils font pour le faire ailleurs. La question, c'est de qu'est-ce qu'on peut faire pour construire une nouvelle civilisation. Je dis que la civilisation actuelle est dans tel état que c'est quelque part irrémédiable. On ne peut pas construire le monde comme c'était il y a 20 ans ou 50 ans. Par contre, on peut construire quelque chose de mieux sur de nouvelles bases. Et c'est un peu à cette réflexion qu'on vous invite. Si le sujet vous intéresse, j'avais fait une série de 3 articles autour de ce sujet de l'éducation pour un petit magazine qui est publié par les Baha'is de Suisse, qui s'appelle La pensée Baha'i. Il y a 3 articles qui se suivent, qui sont au sujet de l'éducation, où vous trouverez les textes Baha'i sur lesquels ce que je viens de vous dire se repose. Hein. Je sais pas vous... D'habitude, je fais des conférences avec des écrits pour qu'on lise exactement ce qu'a dit les mots de Barolla. Là, je suis en train de vous expliquer ma façon de percevoir et ma façon de vivre ce message. et qui s'adresse à tous. Je ne suis pas différent. Je suis l'un de vous. J'ai été en contact avec ces écrits. J'y adhère, je participe et je partage. Et je serais ravi que vous apportiez vos propres témoignages, parce que c'est sûr que vous avez tous des expériences aussi enrichissantes, différentes, mais des expériences qui sont sûrement complémentaires de ce que je vous ai apporté. Donc je vous remercie à nouveau de ce grand privilège de me retrouver, un véritable pèlerinage dans cette région. Et c'était vraiment avec beaucoup de joie que j'ai accepté cette invitation. Et même si je viens de loin, je vous dis que je n'ai jamais quitté les amis de la région depuis ces nombreuses années. Donc merci beaucoup de votre attention.
Le moment est venu des questions, si vous avez des questions à poser ou de témoignages, si vous avez envie de témoigner de quelque chose. Je vais juste vous rappeler que quand vous prenez la parole, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà, pour que d'abord, par rapport à l'enregistrement, c'est important. Hein, et puis de bien avoir le micro aussi, parce qu'autrement, dans l'enregistrement, on n'entend pas. Hein, voilà.
C'est juste une demande de précision d'orthographe.
Oui.
Comment ça s'écrit Bailly?
Bailly, ça s'écrit B-A-H-A, Baha, ce qui veut dire la gloire, et apostrophe I. Parce qu'en persan, quand on met I, apostrophe, ça veut dire que ça appartient à. Bailly.
Oui, je vais vous poser peut-être une première question un petit peu dérangeante. Bon, vous avez parlé de coopérer, d'entraide. Alors, je pense à un organisme international qui est assez populaire. On va bientôt organiser les Jeux Olympiques. On a les Jeux Olympiques d'hiver, les Jeux Olympiques d'été. Mais on rassemble des peuples sur des principes aussi de compétition. Parce que la culture sportive, et puis nous, dans les montagnes, chaque année, il y a des compétitions dans les grandes stations de ski. Donc, la compétition, en tant que telle, n'est pas toujours négative. Il y a une façon de cadrer la compétition. Et je ne dirais pas, bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein, en reste sans polémiquer, mais je ne dirais pas que promouvoir la fraternité, la coopération, c'est la disparition complète de la compétition.
Absolument, absolument.
On peut le voir dans des organismes internationaux scientifiques, où il y a parfois une compétition entre les chercheurs. On le voit chez les astrophysiciens ou des physiciens. Bon, et n'en parlons pas maintenant dans l'univers numérique. Mais ces compétitions peuvent parfois aboutir à des grands projets. Donc, de société, voilà. Donc, comment pouvez-vous nous expliquer cette juste articulation entre un esprit compétitif au service du collectif?
Je pense qu'on trouve, c'est très important, je vous remercie de soulever ça, mais bon, je ne peux pas tout dire, bien sûr, mais c'est important de souligner qu'il y a l'émulation saine et extrêmement inspirante, et puis une compétition qui met fin à la collaboration, à la coopération. Donc la vie est un phénomène qui dépend de la coopération, de la collaboration. Les plantes, les animaux, l'air, tout ça, vivent de la collaboration et de la coopération. Mais si la compétition vient à un point où on commence à se démolir mutuellement, évidemment, c'est l'autre extrême. Je crois qu'il faut être un peu bouddhiste ici, peut-être, le Tao, la voie du milieu. Il y a le juste milieu dans toute chose. Il y a le juste milieu dans toute chose. Le juste milieu, c'est qu'il y ait l'émulation, on fait des concours, on fait, etc., qui est tout à fait nécessaire, et ça nous pousse à nous améliorer, à se dépasser, etc. Et puis, il y a une compétition qui est malheureusement crapuleuse parfois, et on voit en milieu sportif, très ému, quand certains athlètes sont en difficulté, d'autres athlètes qui viennent à leur recours. Je crois que l'esprit olympique, c'est justement cette émulation, mais pas la compétition méchante. Et donc, je crois que c'est très important de souligner ça. Je ne dis pas qu'il faut mettre fin au concours, aux examens, tout ça. C'est nécessaire pour nous orienter, mais l'extrême, c'est lorsque la compétition vient entraver la collaboration, la coopération. Merci.
Oui, si j'ai bien compris, vous avez dit tout à l'heure que dans chaque religion, il y avait un corps de loi éthique, mystique, de valeur, et un corps de loi sociale. Donc, est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans le monde musulman, Mahomet avait interdit le porc, et bon, tout le monde sait plus ou moins qu'effectivement, le porc élevé dans des conditions chaudes et la viande de porc mal stockée avait le ténia, le ver solitaire, ça transmettait des maladies. Donc ça, c'est une loi sociale, si j'ai bien compris. Et vous avez dit qu'effectivement, les lois sociales d'une époque, d'une religion donnée dans le temps, ne pouvaient pas s'appliquer aujourd'hui. Et ça m'a fait penser peut-être à la loi du talion donc, chez les Juifs, qui est donc un peu œil pour œil, dent pour dent, et il est certain... Et, en ce sens, je suis d'accord avec ce que vous dites. On ne peut plus appliquer la loi du talion aujourd'hui dans nos sociétés, quoi. Si on arrache un œil à quelqu'un, on ne va pas se faire arracher l'œil, quoi. On va être jugé. Oui. Voilà. Donc, vous avez d'autres exemples?
Mais la loi de talion est très, très importante parce que ça montre comment nous pouvons simplifier les lois religieuses parce qu'on ne lit pas correctement le texte. La loi de talion, quand il dit œil pour œil, dent pour dent, esclave pour esclave, etc., c'est la proportionnalité. Oui, c'est par rapport à avant. Absolument. Donc, c'est la proportionnalité de la punition par rapport à l'offense. Premièrement. Deuxièmement, la loi de talion doit être appliquée par des tribunaux et pas par les individus. Donc, ce n'est pas, tu ne te vengeras pas. La vengeance est interdite dans la religion juive, mais très, très fermement interdite. Mais il faut que ceux qui offensent, le criminel ou le contrevenant, soient jugés par des personnes compétentes et que il y a une proportionnalité. S'il a cassé le dent de quelqu'un, on ne va pas lui crever l'œil. Mais ce n'est pas une injonction à la vengeance. La vengeance, Moïse a très clairement éradiqué. Mais on voit comment ça nous arrange de l'interpréter comme ça. Quand il y a des mouvements religieux qui vont prendre une phrase de Coran ou de l'Ancien Testament et ils l'appliquent de travers. Quand Moïse dit « il vous a interdit de détruire les maisons de quelqu'un », c'est dans le Torah. Et pourtant, on le fait. Parce qu'on s'arrange. Parce qu'on utilise la religion comme instrument. On utilise la loi religieuse, les lois religieuses comme instrument de domination, etc. Donc, je ne veux pas aller dans des polémiques... Mais pour dire simplement que le principe de justice, d'amour, de fraternité qui sont détaillés dans les 10 commandements et dans le reste de la Bible sont repris par le Christ, sont repris comme par Mahomet, ce sont les principes moraux, éternels, dans le passé, dans l'avenir. Ça ne changera pas. Aucune religion ne va dire que la haine, c'est mieux que l'amour. C'est pas possible. Par contre, pour que l'amour puisse se réaliser parmi les citoyens, il y a des lois sociales. Et les lois sociales dans le désert, d'une certaine époque, ne sont pas nécessairement les mêmes lois sociales chez les Esquimaux et chez les Européens d'aujourd'hui.
Oui, c'était par rapport aujourd'hui justement aux interactions des lois sociales auxquelles on n'est pas forcément préparé. Et les uns veulent dire que leurs lois sociales, ils veulent les appliquer alors dans le pays où ils viennent. D'autres disent, ben non, vous devez appliquer les lois qui sont chez nous. Donc, ce qui est très difficile, c'est que justement, chacun a le bien fondé de ses lois sociales. Et sinon, c'est du racisme. Alors, à quel moment, quelles sont les limites d'accordement? C'est ça qui n'est pas évident, je trouve.
C'est très difficile, mais c'est normal que ce soit difficile. Vous savez, on est en train de passer des structures sociales désuètes, périmées, à des nouvelles valeurs. Et cette transition, c'est extrêmement difficile. C'est un changement de culture. Ça ne se fait pas comme ça d'un clin d'œil. C'est toute une éducation, c'est tout un attachement à nos racines. Les gens disent, oui, mais ces racines, c'est ça. Nous sommes des peuples autochtones de tel pays. On ne veut pas adopter cette nouvelle civilisation, etc. Mais quelque part, il y a un choix à faire. Si on veut que la société survive, si on veut que nos enfants puissent se développer, il faut adopter. Il faut faire des compromis dans ces lois sociales. Mais il faut que la loi sociale soit une source de bien-être. Est-ce que ce comportement que vous prétendez être votre tradition, est-ce que ce comportement apporte plus d'amour, d'entente, de cordialité parmi les populations, ou est-ce que c'est une source d'incompréhension et de conflit? Si c'est une source de conflit, il faut le laisser de côté. Si la religion ou la tradition devient une source de violence et de mal-être, il faut le laisser de côté. Le but de la religion, c'est améliorer. Le Jésus, quand il annonce sa mission, il va dans la synagogue, il ouvre la Bible et dit, si le Seigneur m'a oint pour libérer les captifs, soigner les malades, etc. Le rôle de la religion, c'est d'améliorer notre sort. Et si nous pratiquons cette religion d'une certaine façon, que ça crée la division et des conflits, eh bien, à ce moment-là, nous faisons fausse route. Il faut se dire, je pratique telle religion, mais dans mon comportement, est-ce que je suis en train de promouvoir la paix ou est-ce que je suis en train de promouvoir la division et la haine? Si ma pratique est en train d'aggraver la situation, ce médicament n'est pas adapté à cette époque-là. À chaque phase de la maladie, le médicament est différent. Ce que Dieu a prescrit du temps de Moïse n'est pas pareil que ce que Dieu peut prescrire à d'autres peuples au temps du Christ, etc. Donc, il faut voir. Jésus, il dit, jugez l'arbre par ses fruits. Si l'arbre a des bons fruits, ben l'arbre est bon. Donc, votre comportement religieux, c'est juge par rapport à ses fruits. Si nous sommes en train de créer l'amour et la fraternité, on est dans le vrai. Enfin, c'est ma façon de comprendre. Hein, en tout cas, c'est ce que je comprends des enseignements pareils. C'est l'arbre par ses fruits. Est-ce que ce type de religiosité, est-ce que je fais des prières dans la rue, est-ce que ça conduit à plus de compréhension? Est-ce qu'en faisant ces prières de rue comme ça, ou en torchant les mosquées ou les églises ou autres, est-ce qu'en faisant ça, ça encourage les gens à venir s'inspirer des écrits saints? Non, ben, il ne faut pas le faire. Vous voyez? Donc je pense que, quelque part, la religion doit avoir une traduction pratique. Il ne faut pas que j'aille persécuter les gens des autres religions, je torche leurs églises parce que comme ça, je veux avoir une récompense au paradis. Mais c'est quoi ça? Je veux avoir une récompense au paradis, ça y est, j'ai tué un infidèle, alors je veux avoir une récompense au paradis. Mais est-ce que c'est ça la religion? Vous voyez? Donc, enfin, ma réponse, c'est dire qu'il faut être pragmatique. Enfin, c'est ma façon de comprendre les choses. Hein.
Peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que justement, c'est un peu comme la création de cette nouvelle civilisation. C'est pas chacun qui arrive avec sa position et qui dit la mienne est la meilleure, ma façon de vivre est la meilleure, ma façon de vivre est la meilleure. C'est de trouver ensemble une façon de vivre nouvelle qui nous permette de bien vivre ensemble et d'être dans l'unité et dans l'amour. Et que peut-être ces principes sociaux, ben, il y en a peut-être d'autres qui sont nouveaux et qui nous permettraient de vivre tous ensemble.
Tout à fait. Beaucoup de ce conflit aussi viennent parce que les gens ils se sentent opprimés, ils ont l'impression qu'ils ont été piétinés, ils ont subi des injustices, mon grand-père, mon arrière-grand-père, etc. Et donc moi maintenant, j'en veux aux gens de tel peuple, etc. Enfin bon, je crois qu'un jour il faut dire, bon, l'histoire c'est l'histoire, on va l'étudier, mais on va en tirer des leçons pour l'avenir. Je ne veux pas retourner en arrière de dire que au Balkan, les Turcs nous ont fait ça, ou que les pères fondateurs de l'Amérique ont assassiné, ont fait des génocides. Bien sûr, c'est vrai. Il faut le dire. Ils vont en tenir compte. Mais les pauvres enfants blancs aujourd'hui, c'est pas lui qui a assassiné les peaux rouges. Et on va construire une société pour demain et pas aller dans le raisonnement de vengeance, puisque ton arrière-grand-père a fait ça, eh ben moi je vais me venger sur ton mère. Vous voyez, c'est les sentiments religieux dévoyés, pervertis, dans la mesure où c'est contraire à ce que le Christ a enseigné. On ne peut pas appliquer des lois sociales qui soient contraires aux enseignements du Christ. Et c'est pourtant ce qu'on fait, ou au contraire aux enseignements de Mahomet. Ça, c'est une perversion. On utilise la religion comme moyen de dominer les autres, de dire, moi, je suis plus fort. Voilà, donc, moi, j'aurai des privilèges par rapport à toi.
Moi, je voulais juste vous dire que je suis optimiste, même si on est dans un monde qui se délabre complètement, parce que je vois fleurir partout de nouvelles écoles, des parents qui éduquent leurs enfants de façon différente. Je vois des mouvements écologiques que je trouve très importants, qui prennent, même si c'est pas, on ne parle pas de parti politique,
oui,
mais si les graines germent dans les cerveaux des personnes, comment je peux faire pour aller mieux ? Je vois à des petits niveaux des coopérations qui se mettent en place.
Tout à fait.
Ça ne se dit pas aux informations à la télévision, donc je regarde pas la télévision parce que c'est insupportable, parce que tout ce que je vois moi dans le monde est le contraire de ce que j'entends souvent sur les médias. Je pense que le monde est en pleine mutation et que ça sent terriblement. Seulement, il faut qu'on le dise et puis il faut qu'on le partage. Parce qu'il y a plein de choses. Hier, j'étais à un collectif de jardins partagés. Ben, ça, c'est pas grand-chose. Mais les gens qui vont aller semer, ça s'appelle les incroyables comestibles. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est aller planter des graines dans un endroit. Et celui qui a besoin des légumes qui poussent, il va les chercher. Ce n'est pas vous qui allez les récupérer. C'est les planter pour celui qui peut en avoir besoin, c'est partagé pour celui qui peut, qui ce jour-là. Bon, j'ai vu un truc que je ne connaissais pas, un frigo collectif. Quand les gens partent en vacances, ils ont mis en place une chambre froide. Videz votre frigo et celui qui en a besoin, on ne sait pas qui c'est, viendra le chercher. C'est des petites choses. Je vois plein de petites graines comme ça qui poussent. Et moi, ça me remplit de bonheur, même si c'est tout petit. Et je suis tout à fait partante du colibri de M. Pierre Rabhi, que chacun fasse sa petite goutte et le monde de demain sera complètement différent. Et il commence à être complètement différent de ce qu'il était hier.
Merci, merci. Tout à fait.
Je pense qu'il faut vous écarter de...
Ouais. Voilà, j'ai un ami qui vient souvent. Et moi, c'est la deuxième fois que je viens parmi vous. Je me dis, je viens, j'ai vu votre nom, venant d'Iran. Alors là, je me dis, qu'est-ce que je vais découvrir ? C'était une inquiétude. Et puis après, je me dis, ben, je vais. Et j'avoue que je vous apprécie. Que je vous apprécie dans ce que vous dites. Parce que dans l'Afrique, ce qui se passe, c'est pas très évident. C'est dramatique, je dirais même. Et cette adversité qu'il y a entre le nord, le sud, Et les riches et les pauvres, c'est quelque chose d'abominable, je dirais. Voilà. Et j'étais dans une grande réunion et je suis intervenu au moment de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela. J'ai tout de suite félicité Nelson Mandela devant tout le monde. Il n'était pas encore presque élu, pratiquement. Et je dis, voilà, ça c'est un homme de Dieu. 25 ans de prison, comme il a fait, et après de passer président d'Afrique du Sud, en restant avec les blancs et les moins blancs, eh bien, j'ai trouvé ça que c'était extraordinaire. Et j'apprécie l'exposé que vous avez fait dans l'ensemble. Et c'est remarquable de votre part, d'ailleurs. Mais alors, je vous pose une question, c'est peut-être indiscret, mais est-ce que ce message, vous le faites en Iran ? Je ne sais pas si c'est possible.
Oui, oui, on le fait en Iran, avec les risques que cela comporte, avec de nombreux jeunes et moins jeunes qui se trouvent en prison, assassinés et autres. Mais ils le font quand même. Donc actuellement, on ne sait pas combien il y a de Baha'is en Iran, parce que les institutions Baha'is ont été dissoutes après la révolution. Mais on ne sait pas combien il y a de Baha'is. Il y en avait 300 000, entre 300 et 500 000 avant la révolution. Maintenant, on ne sait pas, parce qu'il n'y a plus de registre. On ne sait pas qui est Baha'is et qui n'est pas. Donc d'ailleurs, la faux Baha'is n'appartient pas aux Baha'is. Ils vont sur Internet, ils lisent les textes, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, les gens. Mais ensuite, l'étape suivante, c'est qu'une fois que vous avez cet idéal, c'est de faire une construction communautaire. C'est-à-dire que de le vivre en pratique. Moi, je m'occupe de la classe d'enfants. Moi, je m'occupe des jeunes. Moi, je veux organiser une classe de ceci. On fera la classe d'enfants chez moi. On fera la classe d'enfants chez toi. J'invite mes copains. J'invite mes voisins. Donc, cette construction se fait sans que les gens soit sur un registre Baha'i. Et il y a des rafles. Par exemple, les Baha'i ferment leur magasin le jour férié Baha'i. Et la réplique du gouvernement, c'est de fermer leur magasin, mettre des scellés sur le magasin. Donc il y a combien de personnes qui se trouvent sans ressources? Les jeunes qui vont à l'université, ils font leur inscription. Et par défaut, dans la feuille d'inscription, religion musulman. Et les jeunes vont voir au secrétariat, monsieur, vous êtes trompé. Vous avez vu musulman, moi je suis Baha'i. Comment petit ici et cela, va-t'en, etc. Donc, il est éjecté de l'université, le jeune. Alors, on a fait une université souterraine où les enseignants Baha'i, chez eux, avec leurs ordinateurs, organisent des cours. Et que le cours soit d'une telle qualité que les diplômes qu'ils donnent sont reconnus par les grandes universités dans le monde. Et régulièrement, dès qu'ils savent, ils viennent, ils confisquent les ordinateurs, ils mettent les enseignants en prison, etc. Mais ils font quand même. Avec ce principe que je ne vis qu'une fois, qu'est-ce que je veux laisser chez moi? Est-ce que je veux laisser derrière moi mon silence? Ou est-ce que, comme Mandela, je veux avoir le privilège? Mandela me touche beaucoup parce qu'il était très proche, admirateur de Julius Nyerere de Tanzanie, avec lesquels nous étions très amis en Tanzanie. C'est un homme remarquable. Donc, je pense que il y a... Je partage entièrement votre optimisme. C'est malgré toutes les choses terribles qui se passent et que les médias nous mettent sous le nez en permanence, on oublie de dire qu'il y a des choses remarquables. C'est pas une mince affaire pour un étudiant qui est souvent en majeur de sa promotion de venir dire « Vous vous trompez ». Je ne suis pas musulman, je suis Baha'i. C'est quand même une résistance pacifique remarquable. Hein, être pacifique, on parle de la paix ici aujourd'hui. La paix ne veut pas dire la passivité. On est bien d'accord. Hein. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est de faire des efforts pour construire une société pacifique, à ses risques et périls. Et ça, moi, je suis un peu ébahi devant le courage et l'engagement de ces jeunes. Voilà la situation en Iran. On ne sait pas combien il y a de Baha'is. Certains disent qu'il y a peut-être plusieurs millions, mais qui n'osent pas, qui ne peuvent pas s'annoncer. De toute façon, on ne peut pas les enregistrer. On est des citoyens du monde. On s'intéresse à ces messages Baha'is. Ce n'est pas l'étiquette qu'on porte qui est importante. C'est pas l'étiquette. Hein. Quand on fait des statistiques, combien il y a des catholiques, protestants, musulmans en France, on ne sait pas très bien. Hein, parce qu'on, mais on dit 95% de Français ou 90% sont catholiques, peut-être, non? Mais on demande, il y a que 30% qui disent qu'ils croient en Dieu. Alors, est-ce qu'on peut être catholique et pas croire en Dieu? Donc, vous dire, c'est complexe. C'est pas le nom qu'on porte. C'est la façon dont on s'engage dans la construction d'une nouvelle civilisation. C'est ça qui compte. Et c'est ça, c'est les gens de foi, c'est ceux-là. C'est pas ceux-là qui portent l'étiquette bruyamment. Le Christ a dit, pourquoi tu annonces bruyamment? Pourquoi quand tu donnes de l'argent, tu fais avec la trompette, etc. Véritable serviteur, celui qui fait en douce, qui le fait par amour et pas pour se faire bien voir. Mais tout y est. Dans les évangiles, on trouve les racines de tout ça. J'ai eu parmi les privilèges que j'ai eus, je fais ma scolarisation primaire en Tanzanie dans un couvent. C'était les sœurs suisses. C'est le 6 suisse allemand. Quand je dis que je fais mes éducations primaires chez les sœurs suisse allemandes, le bonne sœur, c'est quelque chose. Mais alors, les suisses allemandes, ça doit vraiment être quelque chose. Mais non, je vous assure que l'amour avec lequel la religieuse nous a enseigné l'histoire sainte, j'avais 8, 9 ans, et ça m'a marqué profondément. Et quelque part, elle a semé une graine d'amour de Saintes Écritures. Qu'à côté de ça, en catéchisme, on racontait des choses, ça me faisait sourire. Mais l'histoire sainte marquait. Et en même temps que je faisais cette histoire sainte, ma mère, tous les après-midi, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de smartphone et tout ça. Donc en Tanzanie, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Et elle lisait l'histoire de la foi bahaïe, la chronique de Nabil. Comment cette foi est venue, quel était l'héroïsme des premiers croyants et tout ça. Et du coup, je fais un parallélisme parfait entre l'histoire sainte du judéo-christianisme et ce qui était en train de s'était passé en Iran au XIXe siècle avec le commencement de la foi bahaï. Donc, quelque part, très profondément, dans mon être, cette graine interreligieuse a été semée. Je remercie ma mère et je remercie cette religieuse qui, et ses yeux pétillés d'amour quand nous racontait l'histoire de Joseph, Jacob, de Marie et tout ça.
Oui, vous avez un mode de gouvernance qui est assez étonnant. Est-ce que vous pourriez nous en parler dans les pratiques de l'organisation des bails, l'organisation administrative. Et je trouve que ça vient bien illustrer aussi c'est trop fort. Oui. Ça vient bien illustrer ce que vous avez dit sur la coopération.
Oui. Je pense qu'un élément très important qui est extrêmement novateur du message de Barola. Ça marche, oui? Oui. Un élément très novateur et très important du message de Barola, c'est que la foi bahaïe ne s'adresse pas seulement aux individus, mais également aux sociétés. La foi bahaïe préconise une transformation des individus, mais en même temps de la société, en sachant que si la société ne s'améliore pas, vous ne pouvez pas éduquer votre enfant à être un agneau et puis le lancer dans un monde de loups. Donc il faut que les deux, la transformation sociale et la transformation individuelle, aillent ensemble, de pair, parallèlement, simultanément. Et donc, le Barolin a prévu un système d'organisation de la société qui est extrêmement novateur, ce système, en tant qu'il y ait un ordre administratif élu à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, et que cet ordre administratif appelle les voix ou l'élection par tous les croyants. Tous les croyants ont le droit de vote et ils peuvent être élus sans être un candidat. Il n'y a aucune candidature. Donc, on fait une élection dans une ville et tout d'un coup, vous voyez que la communauté vous a appelé à servir pendant un an sur l'institution. Donc, il n'y a pas de clergé. Donc, c'est les individus qui gèrent la vie de la communauté. Parallèlement, il y a un système de personnes qui sont, ça s'appelle le pilier élu, et puis un pilier nommé, où les personnes sont nommées pour des missions un peu d'ambassadeurs pendant de durée limitée, de courte temps. Et ces personnes sont appelées à servir sans aucun privilège, sans aucune récompense d'aucune sorte, et c'est leur privilège d'être au service de la communauté. Et à côté de ça, chaque individu a une mission éducative. Donc chaque individu, librement, dit ben, « moi, j'ai envie de faire cette activité-là, moi, je veux m'occuper de faire un jardin, moi, je veux m'occuper de faire des cours de soutien. » Enfin bon. Donc, ce sont les individus qui doivent faire le travail que faisait autrefois le clergé. Donc, il n'y a pas de clergé professionnel, mais chaque individu est offert ce privilège de venir servir. Les institutions servent à harmoniser le travail. Donc, c'est très vaste. Hein. Je crois qu'on ne peut pas... voilà, très brièvement, je vous donne ça, mais on peut l'approfondir si ça vous intéresse. Je suis sûr que le bailli de Chambéry se feront un plaisir d'approfondir ce que je viens de dire. Ça vous suffit, là? Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Là. Non, vous voulez... Oui.
Vous m'entendez? Oui. J'aurais assez aimé que vous parliez aussi du système de vote, si je me souviens bien, où il y a vraiment, quand chacun prend la parole, je ne sais pas comment...
La consultation.
La consultation.
Oui. Ouais. C'est un élément extrêmement important. Vous avez raison, mais ce n'est pas seulement la structure, mais la façon que ça fonctionne. Et la consultation, c'est que quand quelqu'un a une idée, c'est un cadeau qu'il fait à la communauté. Mais une fois qu'il a transmis cette idée, ça ne lui appartient plus. Il n'a pas à défendre son point de vue. Là, on dit qu'on ne va pas faire des diatribes ni des dialogues. Moi, je dis, tu dis. Non. L'idée, c'est que je offre quelque chose. Je vous ai offert quelque chose aujourd'hui. Ça vous appartient. Je n'ai pas à le défendre. Et vous le prenez et ça vous appartient. Et vous en faites ce que vous voulez. Vous le développez, vous le rejetez, etc. Donc, dans la consultation Bahá'í, à différents niveaux, au niveau de chaque localité, on se rencontre tous les 19 jours, où tous les membres de la communauté, quand je dis communauté, c'est la communauté des personnes qui sont inscrites sur la liste électorale, mais la communauté élargie, ça comporte toutes les personnes de voisinage ou de village qui veulent participer. Hein. Les institutions Bahá'í n'appartiennent pas aux Bahá'í. Dans certains pays africains où il y a de grandes communautés, où il y a beaucoup de Bahá'í, les gens, quand ils ont un problème, ils viennent voir l'assemblée locale Bahá'í pour dire « il m'arrive telle chose ». Parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont impartiaux et qui n'ont pas d'intérêt particulier. Donc cet esprit de consultation qui doit se faire avec amour, qui doit se faire dans le but d'améliorer le bien commun, et pas dans le but de faire avancer mes propres intérêts, bien sûr. Et quand on rentre dans la salle de conseil, on dit qu'il faut laisser de côté tous nos soucis et nos préférences, et on vient là pour prendre des décisions pour le bien commun. Est-ce que dans les conseils municipaux, on fait toujours ça? Voilà. Donc, c'est pour dire, je dis pas que c'est mauvais, mais si nous voulons que la ville s'améliore, il faut que les personnes qui viennent participent de façon désintéressée et qu'ils écoutent les autres. Et voilà.
Ah, je fais le tour. Ça passe derrière. Non, je ne crois pas que ça passe derrière. Je ne connais pas bien.
Oui, merci. Oui, bonsoir. Je suis aussi un Iranien. Voilà. J'ai quitté l'Iran il y a presque 40 ans, le 7 mars 1978. Donc, dans quelques semaines, je vais fêter les 40 ans. Et je n'ai pas pu retourner en Iran parce que je suis Bahá'í. Je me suis aussi posé la question, comment ça se fait la manifestation de Dieu se révèle d'un pays, donc comme l'Iran, et ce pays-là n'a pas pu bénéficier vraiment de cette bénédiction, de cette religion de Bahá'í. Quelqu'un, une fois, m'a donné une réponse. Il m'a dit, regarde, le soleil se lève à l'est, mais parfois, les nuages, comme des voiles, cachent le soleil. Et si tu te retournes vers l'ouest, tu verras que les montagnes, le sommet des montagnes de l'ouest, bénéficie des bénédictions de la lumière, de la chaleur, du soleil. La foi Baha'i est née, comme M. Yazdani l'a dit, en 1844. Le 23 mai 1844, la déclaration de Bab a annoncé la venue de Baha'u'llah. En même temps, regardez l'encyclopédie au Wikipédia sur Internet ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé le 23 mai 1844 aux États-Unis, de l'autre côté de la planète, le premier télégramme entre deux villes a été envoyé. Et pour l'humanité, je ne me rappelle pas le message exact, mais on parlait de Dieu. Voyez comment la manifestation de Dieu apparaît sur la terre, comment génère en fait une nouvelle puissance sur la terre. De même qu'il y a quelques milliers d'années, 6000 ans peut-être à peu près, la révélation de Adam et Ève a révélé à l'humanité la création en fait de roues. La roue a été inventée par l'homme il y a des milliers d'années. Et ça, ça a permis à l'humanité le transport. Bon, je me demande pourquoi les Indiens aux États-Unis, qui on est allé les découvrir il y a 500 ans, ils n'avaient pas découvert la roue. Et donc, le transport était le mot clé, en fait, était le moyen entre les civilisations, ce qu'on a obtenu aujourd'hui. Et là, il y a un siècle et demi, c'est la communication. Le mot clé de cette révélation nouveau, c'est la communication. Et c'est incroyable. Il y a quelques semaines, j'étais au Népal. La première chose qu'on remarque, c'est que tout le monde, tous les enfants, tout le monde est avec un smartphone. Vous voyez comme la communication est devenue un outil extraordinaire. Voilà l'outil qui est donné à l'humanité aujourd'hui pour permettre lui de construire cette unité planétaire. C'est possible. C'est écrit dans la Bible. Quand Jésus reviendra du ciel, tout le monde le verra. Galilée, quand il a dit que la terre est ronde, l'Église a dit comment ça se fait si Jésus revient du ciel, les gens qui sont de l'autre côté de la planète, ils ne le verront pas. Mais aujourd'hui, c'est possible. Si on prononce une vérité, un mot, quelque chose qui a de puissance, tout de suite, ça peut être répandu. Envoyé partout sur la planète. Je suis vraiment, en tant qu'informaticien, je n'en reviens pas à ma femme. Elle va souvent au Népal avec son smartphone et on arrive à communiquer, c'est comme si elle est là. Voilà le moyen à notre disposition pour établir, pour améliorer la planète.
Mais merci de ce témoignage, Adam.
Bon, je m'excuse de prendre une seconde fois la parole.
Bienvenue.
Je suis un vrai Savoyard, mais je veux quand même souligner la qualité de la maîtrise de la langue française de M. Yazdani, qui vient d'Iran, et de notre collègue ici, Danesh, qui vient aussi d'Iran. On ne peut pas dire, mais ils ont bien appris le français. Ça, c'est certain. Danesh parlait de Samuel Morse, qui a envoyé son premier message. Et le premier message disait... voici ce que la main de Dieu a forgé.
Oui.
Ça, c'est intéressant. Après, il y a le monsieur qui a parlé tout à l'heure de façon émouvante de monsieur Nelson Mandela. Et c'est vrai que j'ai toujours été interpellé par l'histoire de monsieur Mandela et de son incarcération durant 25 ans, je crois bien, dans les prisons sud-africaines. Et cette réflexion m'a amené à faire une petite comparaison avec l'incarcération de Baha'u'llah, qui est le personnage fondateur de la foi Baha'i, dont a parlé M. Yazdani, qui lui a fait 40 années d'exil et d'emprisonnement. Et la première fois que Baha'u'llah a été mis en prison, c'était dans le Siad Shal de Téhéran. Ce n'était pas une prison, c'était un ancien réservoir d'eau creusé dans la terre. Il a été enchaîné coups et poings liés contre la terre. Et avec lui, il y avait un certain nombre de prisonniers, pas tous enchaînés comme lui, mais lui, il avait été vraiment enchaîné. On voulait vraiment le tenir. Et ces gens-là vous imaginez la prison de Téhéran, il n'y avait pas de toilettes. Ils étaient dans leurs excréments et dans la pestilence. Et ça m'a toujours bouleversé. Ensuite, il a été exilé. Il a fait d'autres prisons. Et pendant toutes ces 40 années d'exil et d'emprisonnement, il avait un tel charisme, un tel amour. Pas dans la première prison, parce que là, c'était très difficile. Mais plus tard, son charisme et son amour lui permettaient de dire au geôlier qu'il gardait d'ouvrir les portes et de laisser rentrer les secrétaires avec les parchemins, les encriers et les plumes pour que ces secrétaires recueillent la parole qui venait d'en haut. Et au travers de ses 40 années d'exil et d'emprisonnement, il a révélé une œuvre de 100 volumes. Et ça, c'est intéressant. Donc il y a une belle comparaison à faire avec M. Mandela.
Voilà. Merci beaucoup. Merci.
Merci pour tout ça. Moi, j'avais une petite question plus sur les modalités pratiques, puisque vous nous avez aussi rappelé l'importance de la responsabilité de chacun. Et sur l'institut de formation, comment ça se décline exactement? Est-ce que c'est un complément de l'éducation? Puis on a parlé de télévision, de médias, de communication. Est-ce que ça va aussi vers ça et ça se transmet à travers ça aussi?
C'est très important comme question, très vaste, bien sûr. Donc, il est clair que le système éducatif PAI ne vient pas à concurrencer en compétition avec l'école et tout le reste, mais vient en complément. Hein. Donc, l'idée, c'est que le système éducatif ne peut pas tout donner. Et que les parents, les citoyens ont aussi une responsabilité pour l'éducation des enfants. Et il est très clair des résultats que nous récoltons depuis une vingtaine d'années, que les jeunes et les enfants qui passent par un cursus de cette nature-là, où ils étudient des textes, des écrits qui les incitent à devenir des acteurs et pas simplement des observateurs de ce qui se passe dans le monde, transforment la vie de ces jeunes. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un sujet extrêmement difficile sur lequel je m'étais penché une fois. C'est le problème des adolescents, les difficultés, la délinquance et le suicide des jeunes. Ça, c'est terrible. Des enfants qui se suicident, c'est un échec pour tout le monde. Et Cyrulnik, un psychiatre, sociologue que vous connaissez peut-être, tout à fait remarquable que j'apprécie beaucoup, a écrit un livre quand il a été missionné par l'Assemblée nationale pour étudier ce phénomène. Et il a donné un exemple d'Afrique et dit les jeunes Africains n'ont pas de dépression. Depuis l'enfance, ils sont intégrés dans la vie de la communauté. Un enfant qui va à l'école maternelle emmène avec lui un jerrycan et quand il rentre de l'école, il va visiter un vieux ou deux qui sont sous sa responsabilité. Il apporte de l'eau et il rentre à la maison très fier, fatigué, mais très fier qu'il a contribué à la vie sociale. Donc, il est extrêmement important que ce système éducatif que nous sommes en train de mettre en place en pratique, pour lesquels nous avons besoin de volontaires, donc il y a des volontaires qui sont les animateurs de ce groupe de pré-jeunes, par exemple, qui peuvent suivre une formation pour les aider à gérer ces groupes de pré-jeunes. Ces jeunes qui commencent à faire des actes de service, qui aident à peindre l'appartement d'une personne âgée ou qui font le jardin ici, ils sont excessivement heureux. Le bonheur dans notre société, on croit à tort être la consommation. Plus on a des jouets, plus on a un iPad qui est plus gros que le copain, on a des vêtements de marque, etc., plus on est apprécié. Mais en fait, on n'est pas heureux pour autant. Le vrai bonheur, c'est de voir qu'on a fait quelque chose d'utile à la société, on a gagné sa place dans la société. On est devenu, le mot anglais, c'est empowerment. Empowerment, ça veut dire d'habiliter et de responsabiliser. Donc, le mot d'ordre de ce cursus d'études, et vous pouvez voir avec le Bahaï, il y a des petits livrets qui ne sont pas exclusive, hein, mais donc si quelqu'un, je vous dis demain j'ai envie de m'occuper des jeunes parce que ça me plaît, eh ben, vous suivez un cursus de quelques semaines, il y a des qui vous aide à faire, vous pouvez le faire sans faire le cursus aussi, hein. Mais quelqu'un dit, mais moi je ne sais pas m'occuper de jeunes de 13, 14, 15 ans, c'est pas évident. Déjà les parents ont beaucoup de mal à les gérer, ces enfants. Et moi je suis qui? Mais au contraire, on voit que ces jeunes, dès qu'ils ont l'idée que je veux devenir un agent de changement, d'amélioration de la société, vous voyez les yeux briller. C'est ça le bonheur. Et si on n'offre pas ça à un enfant, si on fait d'un enfant un consommateur passif, il ne peut que déprimer. À quoi on sert si on ne peut pas être un agent d'amélioration de la société? Nous, les vieux, je regrette, mais notre vie a été jouée. Donc, les jeunes, qu'est-ce que je veux faire comme études? Où est-ce que je veux habiter? Comment est-ce que je veux me marier? Comment je vais élever mes enfants? L'avenir du monde, c'est leur souci quotidien, à chaque instant. Donc, si les jeunes s'enfuient dans des activités, on parle de ordalisme, ils font des défis, etc., les trucs extrêmes, les paris stupides, enfin, il y a un tas de... C'est parce qu'ils ont envie de vivre quelque part. Et si on leur offre la possibilité de faire des choses, et pas seulement de faire des choses tout seul, d'organiser leur service avec d'autres, on est cinq, on s'est organisé, lui a fait ça, lui il a amené ça, moi je fais des chansons, lui il a joué, enfin... Cette vie sociale constructive est quelque chose qui permet aux jeunes de se construire. Voilà. Écoutez, je vous donne une explication, mais je ne peux pas vous donner tout, bien sûr. Bon, je pense que vous avez Sabine et les autres amis, ils vont vous inviter aux activités.
Je voulais vous demander si les bails s'engageaient dans les municipalités, dans les mouvements écologiques, etc. S'il y avait un engagement au niveau sociétal.
Oui, oui, mais. Je dirais oui, mais. Les bails doivent s'intéresser aux problèmes de ce monde. Ils doivent être informés. Il ne s'agit pas de se renfermer dans ce... dans son tour d'ivoire, mais il faut vivre dans la société. Mais en même temps, les bahaïs veulent participer de façon efficace. Pour participer de façon efficace, il est indispensable que la structure que nous allons mettre en place soit inspirée des lois spirituelles, ne soit pas inspirée des préoccupations de partis politiques, de domination, etc., qu'on voit autour de nous. Hein, bon. Tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Mais bon, évidemment. Donc, les bahaïs doivent participer. Mais chaque bahaï voit sur ses 24 heures combien de temps il va mettre pour ses études ou son métier, combien de temps pour sa famille, combien de temps pour faire un peu de sport quand même, etc. Et combien de temps il va mettre dans la vie associative. Donc, les bahaïs sont engagés dans la vie associative. Mais c'est très important. Les bahaïs évitent soigneusement de rentrer dans tout mouvement qui soit de nature de militantisme politique. Il faut faire très attention que le but de Bahreïn n'est pas d'entrer contre quiconque. Nous sommes pour l'amélioration de la société, mais nous ne le faisons pas contre droite, gauche ou autre. Donc les Bahreïns sont extrêmement vigilants que leur action sociale ne soit pas mêlée à des controverses politiques. Et donc, le sujet qui vous intéresse, il y a des documents, il y a notamment un document spécifique sur ce sujet qui a été préparé par le Centre mondial Bahaï, sauf erreur de ma part, c'est en 2012. Ce document s'appelle l'action sociale. Hein? Donc, on peut vous donner les sites internet, il y a les sites de la communauté internationale Bahaï, BIC, où il y a des déclarations Bahaï sur différents sujets d'ordre social, sur la pauvreté, sur la discrimination contre les femmes, sur l'émancipation féminine, la violence faite aux femmes, aux enfants. Enfin, sur tous ces sujets, les Bahaïs prennent position et ces documents sont présentés à l'ONU, puisque la Fondation Bahaï, depuis 1949, je pense, est doté d'un statut consultatif auprès de l'ONU. Donc, chaque fois qu'il y a un sujet sur le racisme, sur la migration, etc., les Bahaïs font une déclaration qui exprime leur point de vue. Et les Bahaïs du monde entier suivent dans ce chemin, suivent dans cette idée politique, mais politique dans le sens pur, jamais dans le sens de politique partisane. Voilà. Donc, vous pouvez voir sur les sites, vous pouvez télécharger ces documents, les étudier et peut-être venir voir les Bahaïs pour en discuter. Mais la question que vous posez s'appelle l'action sociale. Absolument. Les Bahaïs ont une obligation de participer. Ils votent selon leur conscience et on leur dit, vous ne votez pas pour un système politique, vous votez pour une personne. Donc, les Bahaïs votent. Il est un principe très important de la foi Bahaï. C'est que les Bahaïs doivent respecter le gouvernement en place. Nous ne voulons pas changer la société en étant contre tel mouvement politique. Nous voulons transformer et préparer les bases d'une nouvelle civilisation à partir de la base, sur des bases spirituelles. Donc ils votent, mais ils ne participent pas à la vie politique. Les Bahaïs qui veut faire de la politique, on lui demande d'abord démissionner de la communauté Bahaï.
Oui, j'aurais voulu savoir comment vous vous situez par rapport à des problèmes qui sont vraiment à la mode, dans le bon sens du terme. Hein. On va réviser la loi de bioéthique, comme on le fait oui. régulièrement. Ça pose des questions qui viennent d'ailleurs en prolongement de tous les débats qu'il y a eu sur la fin de vie, qui ont lieu sur la procréation médicalement assistée, oui. qui ont eu lieu dans le passé sur l'avortement, le préservatif oui. et tout ça. Donc, ce n'est pas un problème de l'instant, c'est un problème social rendu possible par le progrès des sciences et techniques biologiques. Je voudrais savoir si le mouvement, je ne sais pas bien prononcer, c'est un Baï, oui. a déjà réussi à avoir une position, je dirais, stable sur le sujet, ou s'il est encore, comme beaucoup d'entre nous, en recherche.
Je peux dire que c'est une position de recherche stable. Et il y a une stabilité. Et il y a une stabilité dans l'idée que tous ces problèmes sont tributaires de l'état de la société. Donc une décision éthique d'il y a 20 ans et maintenant et dans 20 ans ne peuvent pas être les mêmes parce que les conditions de la société vont évoluer. Ça, c'est le premier point. Le changement fait partie de la vie dans ce monde. Et ces changements, il faut l'accepter, il faut s'y adapter. Mais ce que nous adoptons comme système social doit être conforme. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance que la décision que nous faisons ne soit pas contre-productive sur la société. Donc, j'ai plusieurs documents sur ce sujet. Je vous laisserai mon adresse mail. Si vous me demandez, je vous envoie quelques documents. Mais le fond de la question, c'est que, d'abord, la décision éthique n'est pas quelque chose de stable pour toujours. C'est quelque chose qui doit changer en fonction des besoins de la société. Et pour que ce changement soit possible, Baha'u'llah a très spécifiquement prévu un corps élu international qui va arbitrer en dernier recours sur ces questions. Et pour les Bahaïs, la décision de ce corps est final. C'est-à-dire que c'est l'arbitre. Hein. Vous jouez au foot ou vous ne jouez pas. Si vous jouez, l'arbitre a dit ça, vous suivez ça. Quitte à ce que ça change après. Donc, le but de l'éthique, c'est de créer la paix entre les gens. Ce n'est pas seulement de faire que je n'ai pas de péché. Hein. Mais parfois, on voit dans le système éthique, je ne veux pas trop nommer des choses, mais ils disent, voilà, moi ça c'est un péché pour nous, mais quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre religion, il a le droit de le faire pour nous. Ce n'est pas ça. Le but de l'éthique, c'est de trouver la meilleure solution pour la société. Donc, d'un côté, il y a un arbitrage. C'est un peu notre comité national d'éthique. La France peut se féliciter de cette structure, le comité consultatif national d'éthique, qui permet aux différentes religions de se rencontrer et de se prononcer. Et le comité prend une décision qui est évidemment révisée d'époque en époque. Mais on est bien conscient pour changer véritablement le problème de l'avortement, le problème d'autres problèmes bioéthiques, il faut qu'il y ait un changement de la société. Il faut que la société se transforme spirituellement. Le problème d'avortement peut être résolu si la société facilite l'adoption, par exemple. Hein? Donc, je pense que, en tant que médecin, j'ai vécu ces dilemmes. J'étais obligé parfois de prendre des décisions difficiles, mais il ne s'agit pas d'avoir une position rigide et définitive. Il faut voir quel est le compromis le moins défavorable dans un contexte particulier entre les personnes présentes. Ce n'est pas une question de dire que voilà le principe, c'est niet, ou c'est permis. Entre l'interdit et le permis, il faut qu'il y ait une modulation en fonction de la situation afin que ça produise les meilleurs résultats possibles, ou en tout cas les moins défavorables possibles. Vous voyez, la décision éthique, toutes les religions disent que c'est interdit de tuer, sans exception. Mais si vous avez un malade mental sur un toit avec un fusil qui est en train de canarder la population, le préfet demande à ce qu'on le descende, si on ne trouve pas d'autre solution pour le neutraliser. Ce n'est pas bien de le tuer, mais c'est quand même préférable de tuer un malade mental plutôt que de laisser d'autres. Donc vous voyez, la décision éthique, ce n'est pas quelque chose d'arrêter définitif, sinon ce serait trop simple. On ouvre son livre et dit, bah oui, ça, bah non, ça c'est interdit, ça c'est permis. Non, il y a une discussion, il y a une consultation entre toutes les personnes impliquées. Et ça, c'est un élément important de la consultation. Ça veut dire que beaucoup de choses sont laissées à la conscience des individus, parce que si vous voulez vous adhérez à un principe social, à un principe spirituel, c'est pour votre développement spirituel et celui de la société. Si vous prenez une décision qui est contraire à ça, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Ah ben c'est dommage pour vous. Vous voyez ? Et puis, il y a des limites où la société dit, attendez, vous êtes allé trop loin. Il faut que le procureur intervienne, il faut que la société intervienne pour mettre fin aux extrêmes. Bon, mais c'est un sujet très vaste, j'ai du mal à...
Actuellement, vous trouvez sur Internet une consultation de l'ensemble des associations qui ont été contactées pour ça, à propos de la révision de la loi de bioéthique. Par exemple, sur la PMA.
Oui.
Moi, je veux bien que vous me disiez, il y a des gens qui vont décider et ça s'imposera, mais moi, ce que j'aimerais savoir, d'abord, c'est que si vous y avez réfléchi, enfin vous, je veux dire collectivement, hein, et si vous décidez, qu'est-ce qu'ils ont des chances de décider ? Ça m'intéresserait quand même de savoir à quoi je dois obéir.
Oui, pour répondre à votre question, je pense que moi, je peux avoir ma position et je suis pour le respect de la vie dans toutes ses formes, mais je suis aussi conscient que dans l'état actuel de la société, il y a certaines choses qui peuvent être tolérées en attendant que le développement spirituel de la société permette de faire mieux. Vous voyez, je pense que, à nouveau, la position, il faut qu'on aille dans les détails. Et je vous dis, je suis pas allé dans les détails de cette loi, mais c'est clair qu'il faut chercher la meilleure bienfaisance ou la moindre malfaisance et trouver la solution. Mais je ne pense pas qu'il y aura une décision définitive. Je ne peux pas dire qu'en tant que Bahaï, je sois contre ou pour l'avortement. Je pense qu'il y a des situations exceptionnelles où l'avortement, c'est mieux que pas d'avortement. Mais quelles sont ces situations? Comment on décide? Ce sont des décisions complexes. Je me souviens, j'étais très touché par ça. Je crois que c'est Dukakis, pendant un débat électoral aux États-Unis, une jeune qui a dit, voilà, j'ai été violée, je suis enceinte, etc. Est-ce que j'ai le droit d'avorter? Et donc, il s'est mélangé les pinceaux. Mais je pense qu'un futur président n'a pas à donner un avis, il doit dire que si je suis élu, je mettrai en place un comité de sages qui va étudier votre cas particulier et voir quels sont les avantages, les inconvénients, les répercussions, et Donc la décision éthique, je ne pense pas que ça puisse se faire d'une façon couverture complète, hein, blanket, on dit. Il faut que ce soit fait du cas par cas. Ça ne veut pas dire qu'on fait du n'importe quoi. Ça veut dire que dans ces circonstances particulières, exceptionnelles, c'est le moindre mal. Dans ces circonstances particulières, le préfet a eu raison de demander à ce qu'on abatte le franc-tireur. Mais c'est exceptionnel, ce n'est pas généralisable.
Je vais me permettre, faut que je me lève. Bien, Michel. Je vais amener une petite précision, parce que tout à l'heure, il y a eu une question posée sur l'Institut, et j'ai l'impression qu'on peut encore en dire beaucoup. Je connais un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a été produit par des têtes bien pensantes, c'est le fruit d'un apprentissage des gens les plus humbles qu'on puisse imaginer. Ça vient des favelas en Colombie. C'est l'origine, d'ailleurs c'est colombien, complètement. C'est basé sur les écrits de Baola, mais c'est colombien. Toute l'originalité est que ça appartient à personne, ça appartient à l'humanité. Enfin, au moins, ça appartient à tout le monde. Ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu, l'Institut. C'est une façon de travailler avec les autres, de réfléchir avec les autres et de comprendre qui on est et ce qu'on a envie de faire de sa vie. Les bases spirituelles, on peut en parler longtemps, mais c'est que les valeurs communes qu'ensemble on peut partager et sur quelles bases on peut travailler pour améliorer la relation aux autres, comment vivre ensemble. Certains d'entre vous, là, je vois qu'il y a quelques têtes, on a plus ou moins aussi participé ensemble. C'est cet échange-là, l'Institut, c'est pas. Et ça appartient à tout le monde. Tout le monde peut se l'approprier, le faire dans son coin et avancer. C'est pas un lieu, c'est pas basé, c'est pas fait pour les bails, c'est fait pour tout le monde. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie d'aider? Et voilà, c'est ça où je voudrais quand même préciser, parce que vous pouvez très bien ce soir dire, moi j'ai envie de faire de mon côté, puis même si c'est mieux, du moment qu'on est entre des différentes personnes, qu'on puisse partager, qu'on se respecte les uns les autres, qu'on essaye de comprendre la pensée de l'autre, de l'apprendre, de l'accueillir, quoi, de se dire, ben voilà, il a le droit de penser comme ça, qu'est-ce que je peux en tirer? Est-ce qu'ensemble on va évoluer? C'est ça l'esprit qu'il y a. Pour le monde d'après, quand on parlait tout à l'heure, j'entendais parler d'écologie, etc. Oui, mais on en fait quoi? Comment est-ce qu'on le travaille ensemble? Sur quelle base? Comment mettre tout le monde d'accord? Progressivement, avec évolution, avec tact, avec... on ne peut pas arrêter les voitures tout de suite aujourd'hui. Une preuve, je dois rentrer chez moi. Pourtant, ce serait nécessaire d'arrêter les voitures. On fait comment? Sur quelle base? Sur quelle valeur on va partager ça? Et j'ai l'impression que... Voilà, il faut savoir qu'on a, entre nous... c'est qu'un outil pour un exemple, hein, l'Institut. C'est pas une finalité en soi. L'éducation est simplement la base sur laquelle on va pouvoir travailler et avancer ensemble. Donc voilà, c'est juste pour partager ce message. C'est un message d'ouverture à tous, quoi. C'est pas lié au bail. C'est lié au bon sens actuel qu'il y a besoin d'avoir. Donc voilà, c'est juste pour préciser. Je t'en prie.
Je me suis calé là-dessus parce que je crois qu'il y a une question.
Je pense
que ça va être la dernière question.
Oui,
là,
ben, écoute,
regarde.
La dernière, ok.
La dernière, vous aussi. C'est court.
Je voudrais savoir si on appartient à la foi catholique, musulmane, est-ce qu'on peut être adhérent à la foi baï?
Tout le monde, croyant ou non, athée, agnostique, n'importe qui, peut participer dans la construction communautaire que les Bahaïs proposent. Tout le monde. Par contre, à l'intérieur de l'administration Bahaï, il y a des lois. On est obligé de se conformer à certains principes et il faut être inscrit. Donc, tout le monde peut participer, tout le monde peut organiser des réunions dévotionnelles, des réunions de prière chez lui, de prière où tout le monde est invité. Il peut les organiser, inviter n'importe qui à ces réunions. Tout le monde peut participer dans les classes d'enfants, le cercle d'études où on apprend comment devenir acteur dans cette construction communautaire. C'est ouvert à tout le monde. Mais si on veut contribuer au fonds bail, si on veut être membre d'une assemblée et si on veut participer aux fêtes des 19 jours, c'est une assemblée générale de la communauté, de la localité, membre d'assemblée, ou voter ou être élu, il faut s'inscrire. Et donc à ce moment-là, il y a des bails qui sont inscrits et puis il y a ce qu'on appelle la communauté d'intérêt où tout le monde est intégré à égalité. Hein? Donc tout le monde peut participer, mais pour voter et être élu, il faut être inscrit et donc il faut s'engager en tant que bail. Et c'est ouvert à tout le monde. Et puis, si un jour quelqu'un s'inscrit et puis il veut se désinscrire, ben il est libre. Il dit, bon, ben, je ne veux plus être membre de l'Assemblée, excusez-moi, j'ai d'autres choses à faire. Il n'y a pas de souci.
Oui, je voulais juste dire quand même que devenir bailli, c'est quand même une démarche personnelle, c'est un cheminement spirituel et c'est pas juste comme une association, je m'inscris et je me désinscris. C'est pas ça le but. Hein. Voilà. Le but, c'est vraiment de trouver le chemin spirituel qui nous correspond le mieux, alors qu'il soit bailli ou catholique ou musulman, c'est ça l'important. Et voilà. Après, pour les activités, ben voilà, elles sont ouvertes à tous, comme Farhan a dit. Mais vraiment, devenir bailli, c'est le chemin spirituel qu'on choisit parce que c'est celui qui nous convient le mieux et sur lequel on sait en quoi on s'engage puisque c'est nous qui faisons la démarche. Et voilà.
Merci, Sabine. Merci. Merci. Ben écoutez, on va peut-être clore.
Où est-ce qu'on peut s'inscrire? Oui, non, il y a une démarche de recherche personnelle de la vérité qui est essentielle au bail. On ne peut pas devenir bailli parce que mes parents étaient baillis, etc. À l'âge de raison, un jeune doit dire « je veux être membre de la communauté de bail parce que je pense que c'est ça qui me convient, etc. » Donc, à ce moment-là, il y a le secrétariat, il y a les autres baillis, on dit « tiens, j'aimerais, je fais mon cheminement spirituel et j'accepte Baha'u'llah comme étant la manifestation de Dieu pour notre époque et je veux participer pleinement dans la vie communautaire. » Et il s'adresse au bail qu'il connaît, il l'écrit sur Internet. Il y a un site bail.org. Ils envoient un message et on va le mettre en contact avec le secrétaire d'une assemblée prête et la personne peut dire, voilà. Et la personne peut s'inscrire en tant que bail.
Ben écoutez, merci.